Les deux frères enfourchèrent leurs montures, et Jean de Grasset prit sa sœur en croupe, parce que son cheval était le meilleur, ou plutôt le moins mauvais des deux. Pierre chevauchait le bidet Cornard sur lequel, le mois précédent, les deux frères avaient fait une si belle entrée dans la capitale. Marie jeta un dernier regard au petit manoir dont les toits, sous la demi-lueur d'une aube encore mal assurée, s'estompaient comme dans la grisaille, déjà du souvenir. Tous les instants de sa vie, depuis qu'elle avait ouvert les yeux, étaient inscrits entre ces murs et dans ce paysage. Ces jeux de petite fille, la surprenante découverte de soi-même et du monde que chaque être fait à son tour, journée après journée, l'infinie diversité des herbes dans un champ, l'étrange forme des fleurs et la poudre merveilleuse qu'elles portent dans leur cœur, la douceur du duvet au ventre des petits canards, les jeux du soleil sur l'aile des libellules. Elle laissait là toutes les heures passées à se regarder grandir, à s'écouter rêver, toutes les époques de son visage qu'elle avait si souvent miré dans l'eau transparente de la Moudre, et ce grand éblouissement de vivre qu'elle ressentait parfois couchée à plat dos au milieu de la prairie, en cherchant les présages dans la forme des nuages, et en imaginant Dieu présent dans le fond du ciel. « Abaisse ton chaperon !» lui ordonna son frère Jean. Dès la rivière franchie, il fit prendre à son cheval une allure rapide, et celui de Pierre aussitôt se mit à corner. « Jean, n'allons-nous pas un peu vite ?» dit Pierre, en désignant Marie d'un mouvement de tête. « Bah, la mauvaise graine est toujours solidement plantée !» répondit l'aîné, comme s'il souhaitait méchamment un accident. Mais ses espoirs furent déçus. Marie était une fille robuste et faite pour la maternité. Elle parcourut les 10 lieues de Naufle à Paris sans donner signe de malaise. Simplement, elle avait les reins moulus, elle étouffait de chaleur, mais elle ne se plaignait pas. De Paris, elle ne vit par-dessous son capuchon que le sol des rues et le bas des maisons. Que de jambes, que de souliers. Ce qui la surprenait, c'était le bruit, l'immense bourdonnement de la ville, les voix des crieurs, des vendeurs de toutes denrées, les bruits des métiers. En certains endroits, la foule était si dense que les montures avaient peine à se frayer passage. Des passants heurtaient du coude ou de l'épaule les pieds de Marie. Enfin, les chevaux s'arrêtèrent. On fit descendre la jeune fille qui se sentait lasse et poussiéreuse. Seulement alors, elle fut autorisée à relever sa chape. « Où sommes-nous ? » demanda-t-elle en contemplant avec surprise la cour d'une belle demeure. « Chez l'oncle de ton Lombard, » répondit Jean de Grasset. Quelques instants plus tard, un œil fermé, l'autre ouvert, Messer Tholoméi regardait les 3 enfants du sire de Grasset assis en rang devant lui, Jean le barbu, Pierre le glabre, et la sœur à côté, un peu en retrait, tête baissée. « Comprenez, Messer Tholoméi, » disait Jean, « que vous nous avez fait une promesse. « Certes, certes, » répondit Tholoméi. « Et je vais la tenir, mes amis, n'en doutez pas. « Mais comprenez qu'il faut la tenir vite. « Comprenez qu'après le bruit fait autour de cette honte, « notre sœur ne peut davantage demeurer avec nous. « Comprenez que nous n'osons plus paraître dans les maisons d'alentour, « que nos serfs eux-mêmes se moquent de nous, « et que ce sera bien pire encore quand le péché de notre sœur va s'arrondir. » Tholoméi avait une réponse sur le bout des lèvres. « Mais, mes garçons, c'est vous qui avez causé tout ce bruit. Nul ne vous obligeait de vous lancer comme de furieux contre Guccio, en ameutant tout le bourg de Naufle mieux que par crieur public. Et puis, notre mère ne se remet point de ce malheur. Elle a maudit sa fille, et de la voir auprès d'elle lui fait croître la colère au point que nous craignons qu'elle n'en crève. Comprenez ? C'est la manie des sots que de vous sommer de comprendre. Bah, quand il aura la langue sèche, il s'arrêtera. Mais ce que je comprends fort bien, moi, se disait le banquier, c'est que mon Guccio se soit mis folie en tête pour cette belle fille. Je lui donnais tort jusque-là, mais depuis qu'elle est entrée, j'ai changé d'avis. Et si mon âge permettait que pareille chose m'arrivât encore, je me serais sans doute conduit plus follement que lui. Les beaux yeux, les beaux cheveux, la belle peau. Un vrai fruit de printemps. Et comme elle semble supporter son malheur avec courage. Car après tout, les 2 autres cris, tempêtes, font les importants. Mais c'est bien pour elle, la pauvre enfant, que la peine est la plus grande. Elle a sûrement une bonne âme. Quelle pitié pour elle d'être née sous le toit de ces 2 niais. Et comme j'aurais aimé que Guccio pût l'épouser au grand jour, qu'elle vécût ici, et que ma vieillesse se réjouît à la contempler. Il ne la quittait pas du regard. Marie levait les yeux sur lui, les rabaissait aussitôt, les relevait, inquiète de cette observation insistante. Comprenez, messeurs, que votre neveu...
Oh, celui-là, je le renie, je l'ai déshérité. S'il n'avait fui pour l'Italie, je crois que je l'aurais tué de mes doigts, si je pouvais seulement savoir où il se cache,
dit Tholoméï en se prenant le front d'un air accablé.